L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous met dans les oreilles les voix du Finistère. Des voix qu'on n'a pas toujours envie d'écouter. Enfin, en ce moment, je ne sais pas trop ce que ressent notre invité, mais il porte deux sujets malmenés, disons, par le contexte politique et même géopolitique. La biodiversité et les agences. Lui ne vient pas d'une agence d'État, mais d'une agence régionale, l'Agence bretonne de la biodiversité. Ah, la biodiversité, on dirait bien que dans une période où on parle de déficit budgétaire, d'économie à faire absolument, ni les agences ni la biodiversité ne sont tellement tendance. Bon, ajoutez à ça l'insécurité mondiale, le prisme guerrier, en incluant la guerre économique dedans. Je ne sais pas trop donc comment se sent notre invité. Bonjour Antoine Leroux.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais je ne vous demande pas comment vous vous sentez alors.
Ça va plutôt bien, il fait beau aujourd'hui.
Bon, en tout cas, vous êtes chef de projet à l'Agence bretonne de la biodiversité. Nous, votre action, elle nous semble cruciale. Et en plus, votre mission particulière a un accent positif puisqu'il s'agit des solutions fondées sur la nature. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est crucial de préserver la biodiversité, bretonne ou pas d'ailleurs?
Alors déjà, on peut peut-être rappeler le constat un peu alarmant sur la crise de la biodiversité. On est actuellement dans la sixième extinction de masse. Hein. On a vraiment une perte massive des enjeux de biodiversité qui sont liés plutôt à cinq causes majeures. Hein, l'artificialisation des sols, la fragmentation, les pollutions hein, de l'eau, de l'air, du sol, les espèces invasives, la surexploitation des ressources aussi, on en parle beaucoup. Et puis le changement climatique qui va venir en chapeau un peu accentuer tout ça. Et pourquoi aujourd'hui on doit préserver la biodiversité? Ben, en fait, la biodiversité, elle nous rend des services à nous, humains. On fait partie de cette biodiversité, on a des interactions avec elle.
Oui, nous sommes dedans,
On fait partie.
On est des animaux comme les autres.
C'est ça, il est important de le rappeler, on fait partie de la biodiversité. Et donc cette biodiversité, elle va nous rendre des services, que ce soit l'approvisionnement, par exemple, en eau, la qualité de l'air, etc. De la régulation, ça va être également réguler le climat, réguler l'eau, nous apporter un truc tout simple, c'est la pollinisation. Donc on peut avoir des fruits gratuitement toute l'année grâce finalement à la biodiversité. Et puis un aspect qui est important aussi pour nous, pour faire sens et faire société, c'est tous ces apports en matière culturelle et sociaux. Donc les paysages, la proximité à la nature, les activités récréatives, se balader, faire des sports de nature également. Et puis... la biodiversité, finalement, elle va au-delà de nos limites administratives que nous, société humaine, on a créées. Et donc, c'est un vrai rôle qu'on a de pouvoir agir, finalement, sur ces interactions. Et le GIEC, alors vous parliez tout à l'heure en introduction du climat actuel, politique, géopolitique et international, le GIEC, les experts du climat, mettent bien en avant qu'une biodiversité préservée, c'est la survie de l'humanité.
C'est ça.
Et donc aujourd'hui, vraiment, en fait, on n'est pas là pour sauver la planète, on est là pour sauver l'humanité. Hein, c'est vraiment cet enjeu-là à travers la reconquête de la biodiversité.
Oui, parce que la biodiversité, c'est pas seulement pour faire joli.
Hein. Non.
Il faut vraiment être clair avec ça. Et c'est vrai que, et puis ce sont des animaux, ce sont des plantes, c'est du vivant dans son entier, du vivant aussi auquel on pense pas forcément. Vous parliez de l'artificialisation des sols, c'est des très petites bêtes, des très petits organismes d'ailleurs, les bactéries font partie de la biodiversité.
Tout à fait, en fait, dans toute la vie du sol est hyper important, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la trame brune, donc c'est vraiment toute cette vie et ces interactions qu'il y a qui vont nous permettre d'avoir à la fois des effets de rechargement des nappes phréatiques, donc pour notre eau potable c'est hyper intéressant, sur la qualité aussi de phytoépuration finalement de cette eau, donc on va retrouver de l'eau de meilleure qualité, et puis évidemment sur aussi la capacité à stocker du carbone, donc ça c'est hyper important pour le climat. On parle des prairies permanentes par exemple, des tourbières, des zones humides, finalement ça va être vraiment des zones où on a une vie très riche dans le sol et qui permettent de rendre tous ces services gratuitement, puisque
Oui.
Ils ne sont pas payés.
Et oui, on va y revenir, puisque c'est votre spécialité. L'Agence bretonne de la biodiversité, donc elle a une, on comprend qu'elle a une échelle régionale, mais sinon, qu'est-ce que c'est comme type de structure? C'est une association
Alors, on est un établissement public. Donc, on a été créé en 2020 sous l'égide de nos fondateurs, qui sont l'État et la région. Notre enjeu, hein, vraiment, c'est lié à la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité. Et donc, on a... la loi a permis aux régions, finalement, en partenariat avec l'État, de constituer des nouvelles agences, donc des agences régionales de biodiversité, donc nous, l'Agence bretonne de la biodiversité, pour mener finalement cette mission de reconquête, d'accompagnement derrière des territoires et des acteurs pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les différents pans de la société et de faire monter en compétence aussi sur ce sujet-là. Donc on est vraiment sur une structure publique qui réunit aussi un collectif de partenaires au sein de notre conseil d'administration, à la fois des acteurs de collectivités territoriales, des associations naturalistes évidemment, et puis tout ce qui est chambre consulaire, les acteurs de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, la chambre de commerce et d'industrie. On est vraiment là, nous, notre agence, comme une tête de réseau finalement sur la biodiversité, en essayant de faire parler les différents acteurs entre eux, ces sujets-là.
Et vous êtes le référent technique. Quand on a une question sur la biodiversité, on s'adresse à vous. En
voilà, gros. On pourrait faire le parallèle qu'on est un peu un guichet sur les questions de biodiversité, puisqu'on a vraiment, nous, à cette échelle régionale, une vision un peu globale de ce qui se fait, quelles sont finalement les actions, les projets qui sont en cours, mais également quels sont les acteurs ou les forces en présence qui peuvent justement interagir ou en tout cas accompagner les porteurs sur les questions de biodiversité.
Et toutes les régions sont dotées d'une agence comme celle de la Bretagne ?
Alors, c'est propre à chaque région. Donc, il y a des dynamiques qui sont en cours dans plusieurs régions. On est à peu près à 12 agences régionales de biodiversité actuellement, donc à la fois en métropole et en Outre-mer, puisqu'on a aussi une biodiversité très importante en France par nos Outre-mer.
Partout sur la planète.
Et puis, c'est des dynamiques qui sont propres à chaque région. Et donc, on a globalement des processus qui sont en cours partout et des nouvelles ARB, du coup, Agence Régionale de Biodiversité, qui nous rejoignent. Donc là, on a eu, par exemple, les Hauts-de-France assez récemment. Ça continue. Mais globalement, la France est à peu près plutôt bien dotée en ARB actuellement.
Et cette échelle régionale, c'est une échelle pertinente. Enfin, on sait qu'il existe une échelle nationale, c'est l'Office français de la biodiversité. Bon, après, à plus petite échelle, ça, c'est très variable. Mais...
La vision régionale, elle est assez intéressante parce que déjà, nous, en Bretagne, on a la chance d'avoir une petite région avec un département.
Vrai,
si on compare avec la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie, on n'est vraiment pas sur les mêmes échelles. Donc nous, on a une vision quand même assez historique, régionale, qui est assez intéressante. Et puis, avec des travaux structurants qui vont permettre justement d'avoir une meilleure articulation de tous ces acteurs. Là, on parle notamment d'une prochaine stratégie régionale de biodiversité auquel l'ABB va évidemment participer activement. Donc on a vraiment cette échelle-là. On a aussi le travail avec, vous en parliez, l'Office français de la biodiversité, qui est un opérateur de l'État, qui sont vraiment plutôt, eux, sur des questions de police de l'environnement. On en a beaucoup parlé récemment. Donc c'est vraiment cette mission-là, les suivis scientifiques et la connaissance. Et puis une partie aussi de mobilisation des acteurs et des territoires, ce que fait vraiment l'Agence bretonne de la biodiversité, hein, c'est son cœur même de métier, c'est la mobilisation des territoires. Donc on travaille de manière assez ouverte et partenariale avec les différents acteurs. On travaille énormément aussi avec la région Bretagne qui porte aussi ce chef de file-là sur la question de la biodiversité. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant au niveau régional pour avoir à la fois une vision très globale de ce qui se passe et de qu'est-ce que sont finalement les dynamiques territoriales, et puis ce qui nous permet derrière de décliner plus opérationnellement, de manière plus proche avec des territoires spécifiquement, plutôt les EPCI, une échelle plutôt...
Les
Comcom, parce que si on... Je rappelle, on n'est que 12 agents au sein de l'Agence bretonne de la biodiversité. Donc, c'est vrai, si on devait accompagner les 1200 communes.
Oui, ce serait un peu con.
Et puis, les Comcom ont aussi ce périmètre d'action qui est assez intéressant en matière de planification, notamment que ce soit sur les documents d'urbanisme où on peut intégrer.
Oui, c'est eux maintenant qui s'occupent de tout ce qui est plan local d'urbanisme.
C'est ça, ou les plans climat et énergie, qui ferait le lien aussi avec ma mission, qui sont assez intéressants justement d'avoir ces échelles. Donc on a un peu toute cette déclinaison du régional. On est aussi en interaction avec le national de ce qui se passe.
Mais vous ne faites pas doublon avec l'OFB, quoi.
Non, on est plutôt très complémentaires justement sur ces questions-là, parce qu'on vient renforcer finalement l'action. Et puis, comme vous le disiez aujourd'hui, la biodiversité est vraiment mise à mal et on n'en parle pas assez. Donc, on n'est pas, assez...
assez visible.
Non, je veux dire, tant mieux si on a plus de monde.
On n'est jamais assez nombreux.
C'est ça, pour parler de ces sujets-là, vu le retard qu'on a et les actions qui sont encore, les efforts qui sont encore à mettre en place.
Pour l'instant, l'Agence régionale de la biodiversité n'est pas remise en cause, l'ABB en l'occurrence.
Nous, en tout cas, de notre point de vue, on n'est pas du tout mis à mal. On est plutôt justement assez bien soutenu par nos différents acteurs et partenaires aussi associés sur le territoire. Et puis, les porteurs de projets qu'on accompagne aussi sont plutôt enclins et satisfaits qu'on puisse justement avoir des personnes qui peuvent les accompagner aussi sur ces questions.
Oui, parce que c'est des sujets très techniques, on va y revenir justement, puisque vous êtes Antoine Leroux, chef de projet Solutions d'adaptation fondées sur la nature. Alors adaptation, c'est adaptation au changement climatique, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Ça consiste en quoi, votre travail, exactement ?
Alors, la question de la biodiversité, c'est quelque chose qui est assez transversal. Et nous, quand je dis nous, ces sociétés, on a un peu du mal à travailler en transversalité. Tous nos systèmes sont
finalement... Ah, on est en silo, toujours.
en silo, très cloisonné. Et donc, nous, notre objectif, c'est, en tout cas, moi, sur ma mission, c'est de faire du lien entre les questions de biodiversité et du changement climatique, qui est aussi un autre sujet hyper transversal.
Ben oui.
Et donc, la question, finalement, ces deux volets, comme je le disais en introduction avec le GIEC, sont assez complémentaires. En fait, on ne peut pas agir que sur la biodiversité ou que sur le climat. Il faut agir de manière conjointement. C'est deux enjeux qui sont extrêmement liés. Et donc, ma mission, elle a pour objectif vraiment d'accompagner les porteurs de projets. Donc, globalement, les collectivités territoriales, c'est la grande majorité de nos acteurs, mais aussi les entreprises ou les associations pour intégrer de manière plus forte et plus transversale ces enjeux biodiversité et changement climatique. Donc, au travers notamment du concept des solutions fondées sur la nature, j'y reviendrai. Mais moi, concrètement, ma mission, c'est plutôt d'informer, de mettre en lumière finalement les bienfaits de la biodiversité, en quoi elles répondent aujourd'hui aux questions de l'adaptation au changement climatique ou de manière globale aux enjeux de la société humaine. J'interviens, je vais dans les différents réseaux d'acteurs aussi pour parler de plus en plus de biodiversité. J'interviens également aussi auprès des élus, des techniciens pour renforcer les questions de biodiversité. Et de manière aussi plus opérationnelle, je vais accompagner typiquement des projets sur la question de l'arbre, sur différents sujets, pour être bien au clair si on respecte bien le cadre sur la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique.
Ce terme, cette expression « solution fondée sur la nature », j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps qu'on l'emploie. Enfin, je me trompe peut-être.
Mais... Non, alors c'est... La base des solutions fondées sur la nature, c'est les services écosystémiques. C'est qu'est-ce que rend la nature, la nature pour l'humanité. Ce concept-là des solutions fondées sur la nature, il a été formalisé en 2016 avec l'Union internationale pour la conservation de la nature.
C'est l'équivalent du GIEC pour ce qui est la biodiversité, on va dire, c'est ça ?
Alors, c'est plutôt un acteur global sur la conservation de la nature. Le GIEC de la biodiversité, c'est l'IPBES.
Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi.
Encore une autre structure, un autre acronyme. Mais l'UICN, du coup, il travaille vraiment sur la formalisation de ce concept-là depuis 2016, avec une définition qui a été reprise maintenant et intégrée à la fois au niveau national, européen et puis international, à l'ONU aussi. Donc globalement, on va entendre, c'est des actions qu'on fait déjà, de restauration des écosystèmes, de la question de la nature en ville, des choses comme ça, mais formalisées une entrée de répondre à des défis sociétaux et donc de participer au bien-être de l'humanité tout en préservant la biodiversité. Donc ça va être toutes les actions de gestion, de protection, de restauration des écosystèmes pour répondre à ces enjeux, à ces défis de société comme la ressource en eau, l'alimentation, le développement économique et puis donc les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique.
Solution fondée sur la nature, c'est aussi plus sexy, que peut-être plus abordable que services écosystémiques, hein, voilà, faut bien le dire.
C'est aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que souvent quand on parle de biodiversité, pour certains acteurs, ça peut être vraiment plutôt une contrainte, hein, quand on parle de espèces protégées, de différents éléments, de dire « ah bah mince, c'est des contraintes parce qu'il faut respecter une réglementation qui va avec la biodiversité ». Et ben là, par cette approche de solution fondée sur la nature, déjà on met en avant que la biodiversité est une solution et pas une contrainte.
Donc on ça, est c'est dans déjà, le positif déjà.
C'est voilà. déjà une sémantique qui est beaucoup plus positive et du coup qui permet, et ça on le voit bien depuis qu'on a commencé cette mission à l'agence en 2022, qui permet d'aller chercher des acteurs qui n'étaient pas forcément convaincus au début, puisqu'on a finalement l'habitude de rester un peu dans l'entre-soi et de prêcher toujours les mêmes convaincus. Et donc là, finalement, on va pouvoir aller vers plus d'acteurs du monde du secteur de l'économique, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire pour mieux prendre en compte ces questions-là. Et donc ça, c'est déjà quelque chose de plus positif, effectivement.
Donc ça fait que depuis 2022 que vous êtes vraiment sur cette dynamique-là, on va dire.
Ouais, moi je m'intègre finalement dans deux dynamiques, un projet à la fois européen qui s'appelle le Life Artisan, donc ça n'a rien à voir avec l'artisanat, mais c'est un acronyme encore une fois, parce qu'on a l'habitude.
Alors Life, on en a quelques-uns, on a déjà fait des émissions sur le Life Land, le Life Mara, enfin Life c'est l'instrument financier européen.
C'est ça.
C'est même pas de l'anglais, hein. C'est du français.
C'est vraiment le dispositif européen qui permet de financer des gros projets. Donc moi, je travaille au niveau du coup national avec l'Office français de la biodiversité, justement, qui pilote ce projet-là. Et donc, on est 14 animateurs en région, dispersés à travers la France métropolitaine et outre-mer pour justement animer, faire de l'animation et de l'ingénierie territoriale sur les solutions fondées sur la nature, mais spécifiquement à l'adaptation au changement climatique. Donc, on est vraiment 14 comme moi, qui sont dans toutes les régions, soit dans des agences régionales de biodiversité, comme on le disait tout à l'heure, ou à l'OFB également.
Alors, on a distillé quelques exemples de solutions fondées sur la nature, mais est-ce que vous pouvez nous en détailler quelques-unes pour que vraiment on sache ce que ça peut être ?
Ouais. Eh bien, spécifiquement, on va avoir, nous, des entrées par aléas climatiques. Donc, typiquement, quand on veut s'adapter au changement climatique, si on veut s'adapter aux vagues de chaleur, typiquement, hein, on se rappelle tous l'été 2022, et ben, ça va être une année qui va être normale dans les prochaines décennies et jusqu'à la fin du siècle.
Même en Bretagne.
Même en Bretagne, tout à fait. Hein, je rappelle, 39 degrés à Brest, c'était quand même assez, assez parlant. Et bien, ça va être de toutes les actions de nature en ville. Donc, comment on va retrouver finalement de la végétalisation dans les espaces urbains. Je rappelle que le meilleur climatiseur, c'est l'arbre. C'est vraiment un climatiseur naturel très efficace. Donc, comment on replante et on massifie finalement la canopée pour justement rafraîchir les espaces naturels, tout en préservant du coup la biodiversité avec toutes les interactions que peuvent avoir les différents arbres.
C'est pas si facile parce qu'en ville, c'est pas le milieu de l'arbre.
Il y a beaucoup de contraintes, mais du coup, il faut agir sur plusieurs volets. Donc les contraintes techniques, effectivement, où on peut améliorer finalement les choses, mais ça peut être aussi dans la prise en compte en amont des projets, et ça c'est hyper important, dès la planification d'un projet d'urbanisation ou d'aménagement urbain, et bien de prendre en compte cet espace de végétalisation comme un espace de cadre de vie supplémentaire pour les habitants. C'est un sujet de santé humaine, parce qu'on a beaucoup d'études qui le montrent maintenant, entre le lien entre santé et nature.
Même ne serait-ce que de la seule vision de la nature est déjà, enfin c'est déjà prouvé scientifiquement.
Prouvé scientifiquement, d'être proche des arbres, d'avoir des parcs urbains à sa disposition, de se balader. Il y a plein d'effets, ça favorise l'activité sportive, ça facilite aussi le bien-être mental finalement. Donc on l'a bien vu hein, dans le cadre de la pandémie de Covid et la suite finalement, cet enfermement et du coup de ne pas avoir l'accès à la nature, ça a été quelque chose qui a été vraiment mal vécu. Donc il y a vraiment cet enjeu-là. Et puis il y a aussi tout le changement qu'on qu'on appelle du rapport au vivant, puisqu'on a été, et globalement, beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui enfermées dans des centres urbains, on a un peu cette déconnexion avec la nature.
Voir cette peur de la nature.
Voir cette peur, on pourra, je pense, en reparler aussi, mais sur la question notamment l'éducation à la nature, du lien avec les enfants aussi, qui sont de plus en plus... déconnecté de la nature. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de modifier. On a l'exemple très concret. Hein. Moi, nous, on veut des arbres partout, mais pas devant chez moi. Et bah, ça, c'est un peu aussi spécifiquement des questions, des problématiques qu'on a. Et donc, c'est à la fois des problématiques techniques, mais aussi très sociales, finalement, sur lesquelles il faut agir. Et là-dessus, on a plein de leviers pour renforcer, finalement, et montrer aussi. Et je pense qu'on est assez convaincus à l'agence qu'il faut montrer par l'exemple. Et donc, on a plein de projets aussi qu'on peut valoriser et faire par des visites de terrain, montrer qu'il y a des choses qui sont faites sur les territoires qui sont vraiment très, très inspirantes finalement pour d'autres territoires.
Des végétalisations de cours d'école, bien sûr, typiquement, vous en avez en pagaille.
C'est ça, c'est un peu le... Après 2022, il y a eu vraiment un élan où toutes les communes justement se sont lancées, et tant mieux, et ça... On peut travailler sur plein de questions au-delà de cette végétalisation pour le climat, pour la biodiversité, pour les enjeux sociaux, les interactions sociales. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, on accompagne pas mal ces projets-là, à la fois sur de l'accompagnement technique, la mise en relation avec des acteurs, et puis surtout la recherche de financement, puisque ça a un coût, hein, mine de rien.
Mais ça, c'est un de vos gros boulots, c'est aussi chercher des sous.
C'est ça.
Hein, c'est...
Ouais,
faut bien dire ce qui est.
Globalement, c'est un peu notre... 80% de nos demandes, c'est lié justement à du financement ou des recherches de financement. Donc nous, on travaille de manière très étroite avec nos partenaires aussi, nos financeurs à la fois régionaux puis nationaux, pour trouver finalement des financements à ces porteurs de projets. Et puis, je vais revenir un peu aussi sur les autres aléas qu'on peut avoir en Bretagne. Bon, les enjeux des inondations, on les a bien vus en Ille-et-Vilaine aussi, ça va être l'intensification des phénomènes de pluviométrie. Et bien là aussi, il va falloir agir sur la nature, en mettant en œuvre, par exemple, des gestions d'infiltration des eaux de pluie. La nature, elle peut, avec des zones de végétalisation, avec des arbres de pluie, qu'on appelle aussi.
Ça fait éponge, quoi.
Voilà,
c'est ça,
hein. Les zones humides, typiquement. Mmh. Là, vous parlez de landes et tourbières. C'est des espaces qui, finalement, vont pouvoir énormément stocker l'eau en hiver, et donc de réduire les effets des inondations, et puis d'avoir aussi une meilleure résilience face aux sécheresses. On a des sécheresses intenses, qui sont de plus en plus précoces, et donc d'avoir une restauration du cycle de l'eau par l'intégration des zones humides, une renaturation des cours d'eau, ça va permettre justement de simplifier un peu tout ce cycle de l'eau, d'avoir une restauration plus écologique.
Sur ce qui est de la qualité de l'eau, quelles peuvent être les solutions pour ce qui est de la lutte contre les pollutions cette fois, d'ailleurs pas seulement de l'eau, hein.
Oui, alors pour lutter contre la pollution de l'air, par exemple, c'est l'utilisation des arbres. Il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que un arbre mature, hein, donc au-delà de 20 ans, peut recueillir jusqu'à 20 kg de particules fines par an.
Ah oui, donc, vraiment.
Donc vraiment, il y a cet effet aussi stockage, donc amélioration de la qualité de l'air, hein, ça avec la végétation, c'est vraiment assez intéressant. Et puis sur plutôt l'eau, évidemment, on a la restauration des zones humides. On a perdu plus de la moitié des zones humides en un siècle, ce qui est assez dramatique. Ces zones humides, elles ont un vrai rôle épurateur.
Ah oui, aussi.
C'est des vrais filtres.
C'est pas seulement des éponges qui retiennent l'eau.
Non, voilà, c'est vraiment... Et donc, quand on démontre, en fait, finalement, tous ces avantages qu'ont ces écosystèmes, on a du mal encore à comprendre pourquoi on peut pas aller plus fort, plus vite sur de la restauration ou de la préservation, ne serait-ce que de la préservation.
Oui, déjà de la préservation, parce qu'on voit qu'il y a encore des haies qui sont arrachées.
Tout à fait.
Enfin, c'est quand même dingue.
Ouais.
Voilà. Et quels sont les nouveaux... Vous parliez de nouveaux acteurs que vous aviez réussi à faire entrer dans ce cercle vertueux. C'est qui, par exemple, des gens qui n'étaient pas concernés, puis maintenant qui le sont?
Alors, on a eu beaucoup de demandes. Ce qui était assez nouveau pour l'agence, c'est le secteur économique, les entreprises, finalement, parce que la biodiversité pour la biodiversité, ça ne parlait pas forcément à tout le monde. Enfin, vraiment, le secteur entreprise ou au secteur économique, c'était plus compliqué. Pas pour tous, mais une grande majorité, en tout cas, était assez éloignée de ces sujets. Et en fait, d'avoir pour nous l'approche climat, Les entreprises sont plus déjà beaucoup plus formées, sensibilisées en fait aux enjeux du climat. Mmh. Et donc la question de l'adaptation au changement climatique, par exemple, eh ben, ça a permis pour nous, l'agence, de pouvoir aller dans des réseaux ou en tout cas vers des acteurs qui n'étaient pas forcément très sensibilisés. Mais vu qu'on avait l'entrée climat, ben, en fait, quand on peut parler on ne peut pas parler de biodiversité en entrant par la porte, ben on va rentrer par la fenêtre.
Eh ben
et
oui.
Finalement, l'un dans l'autre, eh ben on arrive à parler des deux sujets. Et vu que les deux sujets sont très transversaux et liés... Ben...
Et pour être crédible, évidemment, il paraît crucial d'apporter des preuves scientifiques. Hein, voilà. Donc ça, vous les avez maintenant. J'imagine que vous en avez de plus en plus dans tous les domaines de l'écologie, d'ailleurs.
Oui, alors bah, nous, on se base aussi sur les rapports scientifiques. Donc, alors moi, sur ma partie adaptation, je travaille énormément sur les travaux du GIEC. Mmh. Mais je travaille également beaucoup avec nos partenaires, notamment l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui est l'acteur de référence sur la centralisation de la connaissance qu'on peut avoir sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau en Bretagne. Donc on se base beaucoup sur eux et sur leur production. Je pense notamment là aux chiffres clés du climat qui vont bientôt sortir par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. C'est très éclairant finalement sur à quoi faudra s'attendre. Et puis pareil sur les travaux qui sont menés de manière globale, les travaux de connaissance. On a... Une collègue à l'agence qui travaille vraiment spécifiquement sur ce volet recherche et connaissances.
T'es une chercheuse ou non ? Elle fait le lien, quoi.
Enfin, elle fait le lien, oui. Elle est chercheuse, elle a un doctorat, en tout cas.
Ah, oui.
Et donc, elle fait du lien, Charlotte Bigard, avec les acteurs de la recherche, justement, pour renforcer la question de la connaissance qu'on a sur la biodiversité en Bretagne. Donc, c'est assez intéressant aussi de pouvoir se mettre en lumière et donc mettre en lumière aussi les dégradations. Hein. On voit qu'on a une dernière étude qui est sorti assez récemment sur la disparition des oiseaux des champs. Typiquement, on a perdu 30% des oiseaux des champs en 30 ans, donc ce qui est quand même assez questionnant. Donc vous en parliez, notamment lié à la suppression du bocage. Ça permet de justifier finalement nos actions et du coup de la volonté aussi de pouvoir agir sur les questions de biodiversité.
Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission, Antoine Leroux. Merci beaucoup. Je pense que l'Agence bretonne de la biodiversité reviendra la saison prochaine pour d'autres émissions. On fera plutôt des focus, justement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on pourra réécouter cette émission, comme d'habitude, sur le site internet de Transistor, à savoir transistoche.bzh.